Carole Boucher, bonjour.
Oui, bonjour.
Sexologue attachée au CIUS Mauricie du Centre du Québec, spécialisée en déficience intellectuelle. Carole, vous avez entendu les paroles d'Hugo. Établir les limites avec un jeune ado qui a une déficience intellectuelle, ça peut être un petit peu plus complexe. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Hugo pour lui donner quelques trucs en ce sens-là?
D'abord, bonjour, Monsieur Letslip.
Bonjour.
Je crois que tout passe par l'éducation à la sexualité, l'éducation à la santé sexuelle. Quand on fait de l'éducation, quand on se préoccupe de nos adolescents, de nos préadolescents, de nos adolescents, c'est pour leur apprendre d'abord qui ils sont vraiment. Et pour qu'ils deviennent des adultes épanouis et responsables, bien sûr. Alors, quand on va faire de l'éducation sexuelle avec eux, on va d'abord leur apprendre leur corps, surtout à l'adolescence, parce que le corps change énormément et on veut éviter qu'il y ait, je dirais pas des traumatismes, mais je dirais des inquiétudes par rapport au changement du corps. Donc, on va travailler cet aspect-là avec eux autres. On va travailler aussi le fait d'être capable de s'exprimer. Je pense qu'il y a du beau travail qui a été fait ici, là, si j'ai bien compris, dans ce cas-ci. Il faut leur apprendre à s'exprimer, mais il faut aussi leur apprendre à dire non.
Ouais.
Et accepter quand ils disent non. Ils ont le droit de dire non à plein de choses dans la vie et il faut qu'on accepte. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple, mais c'est vraiment pour expliquer ce que je tente de dire. Souvent, on a des visiteurs à la maison et on dit aux enfants, va embrasser grand-père ou grand-mère. Et l'enfant nous dit, non, je veux pas y aller. Et dans certaines familles, ou souvent, on fait des remarques en lui disant, t'es impoli, tu dois l'embrasser ton grand-père, ta grand-mère, ça se fait pas, alors que c'est le contraire. Il faut accepter qu'ils disent non à certains de ces gestes-là et comprendre que enfin ils s'expriment sur quelque chose dont ils n'ont pas envie. Et à travailler comme ça les aspects, l'aspect du respect de nos enfants, de nos adolescents qui vivent avec une déficience, on finit par leur faire comprendre que quand ils sont pas à l'aise avec quelque chose, quand ils sont pas confortables dans leur cœur, je dirais, et dans leur corps, ils ont le droit de dire non et il n'y a personne qui va passer des remarques. Oui. Alors, c'est un premier pas, je dirais, vers la prévention de l'agression sexuelle, c'est d'accepter qu'ils puissent s'exprimer et dire non à plein de choses.
Carole, tout à l'heure, Hugo parlait de ces statistiques extrêmement inquiétante. 60 % c'est 4 femmes sur 5 présentant une déficience intellectuelle qui vivront dans leur vie une agression sexuelle. Il y a de quoi s'inquiéter, Hugo, en effet.
Oui, mais moi, en fait, dans le cas d'Alphys, ce qui me préoccupe, c'est plus la distinction qu'elle ne fait pas entre les différentes personnes qui rentrent dans sa vie. Ouais. Donc, elle va, par exemple, aller faire un câlin à une nouvelle personne qui, elle, du coup, peut être mal à l'aise, mais dans le cas où cette personne-là pourrait avoir des intentions qu'on souhaite pas, ça pourrait être dangereux pour Alphée. Donc, c'est plus ça, notre préoccupation, c'est qu'elle-même ne distingue pas bien les cercles d'intimité, disons, les degrés d'intimité.
Alors, tout à fait. On a des programmes bien spécifiques qui nous permettent d'apprendre aux adolescents ou même aux adultes qui vivent avec une déficience quel type de relation ils doivent établir avec les gens. C'est possible de leur apprendre avec des couleurs, des cercles. Bon, vous l'avez dit, il y a plein de façons de fonctionner pour leur apprendre ces gestes-là. Mais je vais vous dire quelque chose, et je trouve ça dommage, mais quand on est parent d'un enfant déficient, il faut éduquer notre enfant, mais il faut aussi éduquer notre environnement.
Et, ouais.
Et ça veut dire qu'il faut éduquer les gens alentour à ne pas recevoir ce type de comportement, surtout quand on arrive à l'adolescence. Un autre exemple que je pourrais vous donner, vous avez le droit de dire à des gens qui vont chez vous, si ma fille se jette à ton cou, je te suggère de la repousser gentiment et de lui dire, mais tu me connais pas, tu veux, on va se donner la main.
Mm-hmm.
Alors, c'est malheureux, mais on est obligé aussi de faire ça dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à éduquer cet enfant ou cet adolescent déficient. Les autres peuvent y participer aussi en prenant eux-mêmes ces décisions-là quant au type de comportement qu'ils voudraient avoir avec, ouais. avec les personnes qui présentent une déficience, bien sûr.
Ouais, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça, Carole, avant, qu'on n'est pas... Ben, ça revient à... Ça prend un village pour élever un enfant.
Oui, exactement. C'est vraiment la maxime la plus intéressante. Alors, ça veut dire que dans nos familles, il faut informer les gens... Vous savez, un autre exemple, cet oncle qui prend toujours sa petite nièce sur ses genoux pour lui faire un câlin, mais quand elle a 18 ans, il faut plus qu'il la prenne sur ses genoux. D'ailleurs, il aurait dû arrêter de la prendre depuis bien longtemps.
Oui.
Souvent, il le fait parce que la jeune fille va s'asseoir sur lui puis il sait pas quoi faire, il est comme figé. Alors, malheureusement, les parents doivent éduquer et la jeune fille et éduquer
et l'entourage.
Oui, pour lui apprendre que non, ça fait longtemps qu'on aurait dû cesser ces comportements-là. Ouais.
Hugo, est-ce que vous avez déjà, ça vous est déjà passé par la tête d'en parler aux proches, aux visiteurs qui viennent chez vous?
Oui, bien, j'ai des situations en tête parce que nous, on a un cercle d'amis assez étendu, puis on a souvent des gens à la maison, des amis qui ont des enfants, des petites familles, puis avec les papas, par exemple, souvent, Alfie va les enlacer. Moi, je leur dis, ben mets tes limites. Ça m'est arrivé de dire ça. Puis, souvent, je me suis entendu dire, c'est correct.
Ouais.
Mais là, je ouais, prends
ça,
des notes.
Ça vous confirme, voilà. Ouais. Carole, j'ai laissé toutes les informations à Hugo. Et bien sûr, ça se retrouvera également sur notre site, sur ce tout nouveau programme d'éducation à la santé sexuelle pour les adolescents qui présentent une déficience intellectuelle. Ça s'adresse aux ados entre 10 et 15 ans. C'est un outil pour les parents. On parle autant de puberté, d'hygiène, d'intimité. C'est un très, très bel outil que vous avez coécrit, d'ailleurs, Carole.
Oui. Alors, on peut se servir de cet outil-là où on va le trouver, où on va trouver le soutien, les ressources. Alors, dans les milieux de la réadaptation, partout dans les CIS et dans les CIUS, là, il y a de la réadaptation à déficience intellectuelle. Dans les milieux scolaires, où il y a des personnes, des adolescents qui vivent avec une déficience. Et ces milieux-là vont se procurer le programme et on leur demande de travailler en étroite collaboration avec les parents parce qu'on pense que c'est les parents qui
tout passe
doivent
par là,
faire
évidemment.
L'éducation sexuelle de leurs enfants, bien sûr.
Donc, je laisse l'adresse CIUS MCQ, MCQ pour Mauricie et Centre du Québec. .ca. C'est là que vous trouverez le programme et toutes les informations. Carole Boucher, vous êtes sexologue, attachée justement à ce CIUS spécialisé en déficience intellectuelle. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.